Nous voulons ouvrir nos Bibles dans l'épître de Paul aux Romains. Donc l'épître de Paul aux Romains au chapitre 15. Nous allons continuer dans cette étude. Romains chapitre 15 et nous allons voir les 13 premiers versets. Je vais les lire. Donc si vous avez votre Bible ouverte ou votre téléphone allumé, eh bien suivez avec moi. Donc Romains chapitre 15. Et je commence à lire au verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est du bien en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ n'a pas été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. » Il est dit encore, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore, « Louez le Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. » Ésaïe dit aussi, « Il sortira d'Isaïe, donc c'est le père de David, un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. » Les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix, dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la justice, par la puissance du Saint-Esprit. Voilà, je vais bâtir sur ce que nous avons vu là depuis le début de l'année, hein, l'année dernière même. Ce verset 13, hein, j'ai intitulé notre étude « L'accueil fraternel mutuel à la gloire de Dieu ». Et donc, ce verset 7 donc, que nous avons lu, le verset 7 de Romains 15, dit « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu ». Ce verset marque la fin d'une section qui commence au chapitre 14 et verset 1 sur l'accueil et le comportement envers des frères qui auraient une position variante sur un point secondaire. Que c'était, vous vous souvenez, quand on était là, que l'un pouvait manger certaines choses, l'autre pas, l'un avait certaines fêtes, l'autre pas, et c'est vrai que il y avait, les Juifs avaient leurs habitudes qui étaient justes jusque-là, puis après, il y a les païens qui arrivent et qui recevaient le Seigneur et qui avaient d'autres arrière-plans, hein. Et ça pouvait créer des tensions, et c'est pour ça que cette attitude est suggérée. Et dans les versets 8 à 13, vous avez remarqué, il y a une série de citations de l'Ancien Testament, mais qui toutes font référence au fait que les nations, donc les non-juifs, ont leur place dans le plan de Dieu, et qu'ils peuvent se joindre au peuple de Dieu, ce nouveau peuple de Dieu, et louer le Seigneur. Hein, donc ils vont glorifier Dieu. C'est une chose que Dieu a prévue depuis tout le long de l'Ancien Testament et jusqu'à maintenant. Ça me fait penser à cette parole de Jésus dans Jean chapitre 10, lorsqu'il parlait du fait qu'il était le bon berger, qui donnait sa vie pour ses brebis. Il dit au verset 16, il dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » C'est justement cette intention de Dieu. Il a dit « Oui, bon, il y a cette brebis d'Israël, mais il y a aussi d'autres brebis. Et ce que je veux, c'est rassembler toutes ces brebis pour former un nouveau troupeau et où il n'y aurait qu'un seul berger. Et c'est lui-même le berger. Hein, il n'y a pas de meilleur non plus. Hein. » Donc ce verset 7 que nous avons vu, c'est la fin de cette section des chapitres 14 et puis la moitié du chapitre 15 qui parle du fort et du faible, suivant ce que l'un pense de lui-même ou de l'autre. Mais c'est aussi la fin d'une section qui traite de la vie chrétienne et du comportement que doit avoir le croyant, hein, celui qui a placé sa foi en Jésus-Christ, le comportement qu'il doit avoir par rapport à lui-même en tant qu'individu, hein, et puis aussi au sein de l'Église, donc dans la communauté des croyants, et aussi dans la société dans laquelle il vit, et c'est important. Et puis aussi, il y a l'accueil qu'il doit faire de ceux qui sont dans notre arrière-plan. Hein. Donc, c'est une section qui commence au chapitre 12 et qui va ici jusqu'au chapitre 15. Et donc, comment vivre cette vie chrétienne, hein, et l'attitude, le comportement qu'on doit avoir. Et c'est très important. Et même 2000 ans après que tout cela a été écrit, c'est quand même encore... Ça demande un effort de la part d'Église, et en particulier quand on a composé de gens de divers arrière-plans et même de diverses nationalités, de cultures et tout ça. Mais le but de Dieu, c'est que tout se soit rassemblé. Ce chapitre 15 aussi, c'est la fin d'une section qui a commencé au chapitre 1. Hein, l'épître aux Romains, c'est une thèse que rédige Paul, et dont le thème, hein, on le voit déjà au verset 1 du chapitre 1, où il parle de l'évangile de Dieu. Et en fait, il dit « Je veux vous dire ce qu'est l'évangile de Dieu ». Et donc, il s'est servi de tout ce livre, ça avait un seul objectif, c'est nous faire connaître l'évangile de Dieu. Le mot « évangile » veut dire « la bonne nouvelle de Dieu ». Et donc, il va dès le début, hein, jusqu'à la vie chrétienne de tous les jours. Et donc, dans cette partie-là, bien sûr, nous avons déjà vu le chapitre 1, donc où il parle à la base, il dit, écoutez, l'homme naturel peut regarder autour de lui et regarder la création et déjà découvrir des choses concernant Dieu. Hein, il nous dit les perfections invisibles, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, il faut quand même faire l'effort de regarder. Hein. Il y a des gens qui peuvent faire des kilomètres et ne rien voir, et il y en a d'autres qui voient tout ce qui se passe autour d'eux. Hein, donc il dit, mais aussi Dieu, il est là, il est visible pour ceux qui... font l'effort de le voir et le chercher, de le reconnaître. Je lisais récemment des œuvres de François de Salignac de la Motte Fénelon, qui est né au milieu du XVIIe siècle, et qui était évêque de Cambrai, et puis aussi il était assez proche de Louis XIV, jusqu'à ce qu'un jour il insinue quelque chose, une critique sur Louis XIV, et puis tout d'un coup il s'est mis vu mettre de côté. Mais il a écrit, à son époque, il écrit un ouvrage intitulé « De l'existence et des attributs de Dieu ». Hein, donc c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps, que les hommes se posent des questions et ils ont besoin d'être aidés, d'être guidés dans leur vue pour voir Dieu. Hein. Et donc l'apôtre Paul, eh bien, lui aussi, nous rappelle que tout ce qui a été écrit d'avance, on l'a vu le dimanche dernier, hein, et c'est au verset 4 là, du chapitre 15, il dit toutes ces choses, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Hein, donc nous l'avons souligné, et je le soulignerai encore, et nous en ferons référence encore. Sans l'Ancien Testament, il nous est difficile de comprendre la pensée de Dieu dans le Nouveau Testament. Et aussi, donc, l'apôtre Paul, dans sa thèse, il arrive au chapitre 4 et il fait référence à Abraham et aussi au roi David et nous permet de prendre conscience du fait que ces hommes, eh bien, ils ont été justifiés devant Dieu, non pas à cause de leurs œuvres, mais par leur foi. Hein, c'est qu'ils ont, ils ont cru à ce que Dieu a dit, et parfois il leur demandait de croire des choses qui étaient difficiles à croire, mais ce n'est pas une question de comprendre, c'est une question de croire, de faire confiance à celui qui l'a dit. Hein, et donc, ils ont fait confiance à Dieu, et ils ont été justifiés devant Dieu. Vous savez, la foi, le fait de croire n'est pas une œuvre, hein, mais plutôt le fait d'accepter une information qui vient de la parole de Dieu. Hein, c'est ça, c'est j'entends une parole de Dieu, je la reçois, je place confiance en elle, c'est la foi. Hein, donc c'est pas une chose que je produis, c'est une chose qui est le résultat du fait de faire confiance à la parole de Dieu. Et ne me dites pas surtout que l'homme pécheur ne peut pas chercher Dieu. Hein, car comment expliquerez-vous le fait qu'il y ait tant de religions? Hein, c'est quelle que soit la culture, quel que soit le lieu géographique, on trouve toujours des gens qui sont en train de chercher comment arriver jusqu'à Dieu. Je dirais même que les gens évitent Dieu tellement bien hein, dans leurs propos que je suis persuadé qu'ils reconnaissent son existence. Vous savez, c'est comme s'il y a un objet au milieu de la route et que vous voyez toutes les voitures qui sont en train d'éviter cet objet. Eh bien, vous vous dites, ben voilà, c'est clair qu'il le voit, qu'il voit cet objet, le fait qu'il l'évite. Et combien de gens, hein, dès que vous commencez à parler, et puis ils sentent que vous commencez à approcher du thème de Dieu, tout d'un coup, hop, ils font un détour. Et donc, s'ils ne croyaient pas à son existence, ils ne pourraient pas le voir venir. Hein, donc, il y a très peu de gens, des vrais athées, qui ne croient pas en Dieu. Hein. Et par le simple fait qu'ils disent qu'ils sont athées, qui veut dire « A », c'est la négation, et « théos », Dieu, pas de Dieu, ben, par le simple fait qu'on dit « pas de Dieu », on a déjà prononcé le nom de Dieu, et on a parlé de ce fait qu'il puisse exister. Hein, donc, c'est pas là le problème, c'est pas « est-ce qu'il existe », c'est une question de « comment est-ce que je peux le connaître ?»« Combien est-ce qu'il peut intervenir dans ma vie ?» et changer ma vie. Et alors, dans Romains chapitre 5, donc, nous apprenons comment le péché est venu dans le monde par la désobéissance d'un seul, Adam. Hein, et le péché s'est répandu toute la race humaine. Mais il nous rappelle aussi que le salut est venu par l'obéissance d'un seul homme, Jésus-Christ. Ce dernier a bien voulu mourir sur la croix afin d'offrir à tous les hommes la vie éternelle. Hein, je vous lis ce verset de Tite 2, chapitre 11, chapitre 2, verset 11. Il dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle est là et elle est pour tous les hommes. Et il suffit d'en entendre parler, de la réclamer, de la désirer, de la demander de Dieu et il l'offre puisqu'elle est déjà là, elle est déjà disponible. Lorsqu'on arrive au chapitre 8, eh bien, nous apprenons que ceux qui ont cru et qui ont été justifiés, eh bien, sont totalement affranchis. Hein, il dit au verset 1, chapitre 8, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Parce que la condamnation est tombée sur Christ. Hein, donc, je ne peux... Et comme j'accepte le fait qu'il ait porté ma condamnation pour moi, eh bien, il n'y a plus de condamnation sur moi devant Dieu. Et Dieu dit, non, non, tout est réglé, vous me devez rien du tout, je vous accueille les bras ouverts. Et ces nouveaux justifiés doivent donc ne plus vivre selon la chair, comme avant, hein, selon la chair, c'est-à-dire selon les passions de la chair, de la vie, les ambitions que provoque et qu'encourage le péché, mais maintenant, les nouveaux justifiés, ceux qui ont bénéficié et qui jouissent du pardon de Dieu, eh bien, il leur dit de vivre selon l'Esprit, hein, l'Esprit de Dieu, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts et qui habite en nous. Hein, il nous dit en Romains 8, versets 9 à 11. Donc, voilà, nous ne connaissions pas Dieu, on a pu regarder à la création, voir Dieu. Finalement, en Jésus-Christ, on arrive jusqu'à Dieu. Et puis maintenant, on trouve, eh bien, on est en relation, Dieu n'est plus, sa colère n'est plus contre nous, son jugement n'est plus contre nous, nous sommes affranchis, nous sommes des esclaves du péché qui maintenant ne sont plus esclaves du péché, mais esclaves de Dieu, et avec un maître pareil, eh bien, c'est la liberté. Et puis quand il nous parle de l'Esprit de Dieu qui habite en nous, ça ne fait pas de nous des dieux, mais ça fait de nous Dieu qui agit au travers et qui marque sa présence et qui marque son désir d'être avec nous et de nous conduire, de nous guider. Et laissons-nous guider par son esprit. Dans cette thèse, bien sûr, l'apôtre Paul, bien sûr, il fait référence aux Juifs, aux Grecs, et la question... Il savait qu'elle serait soulevée, mais alors, qu'est-ce qui se passe avec les Juifs et toutes les promesses de l'Ancien Testament? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout ça s'est annulé parce que Jésus-Christ est venu? Et pas du tout. Hein. Dans les chapitres 9 à 11, justement, et c'est une parenthèse au milieu de cette thèse, où il dit, écoutez, pour ce qui est du peuple juif, ne vous faites pas de soucis. Ce qui a été promis adviendra. Et le peuple juif qui a reçu beaucoup de promesses de par Abraham et de par Moïse et à David et au roi David et ainsi de suite, eh bien, toutes ces promesses de l'ancienne alliance, eh bien, Dieu les tiendra. Hein, il dit, ne vous faites pas souci, il n'a pas terminé. Voilà, continuons et il n'y a pas de problème. Ce que Dieu promet, il le garde et il est fidèle. Hein. Et Dieu n'a pas, hein, c'est pas comme les hommes qui, il y a un effort qui ne semble pas réussir, on le met de côté et puis on essaie, recommence avec autre chose. Non, non, Dieu ne se trompe pas et il continue et il accomplit son œuvre. Donc tout cela, ça nous amène, nous ramène encore à ce chapitre 15 et, Et donc, il n'est pas étonnant, hein, puisque l'apôtre Paul a puisé dans l'Ancien Testament pour dire et pour soutenir tout ce qu'il nous apporte là maintenant. Hein, donc, ce n'est pas étonnant, et ce verset que je vous ai lu là bien plus tôt, hein, ce verset 4, il dit « Ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que nous donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Vous savez, l'Ancien Testament est rempli de récits décrivant combien de fois le peuple d'Israël, à cause de leur incrédulité, et Dieu a employé le mot prostitution quand ils ont été après d'autres dieux, d'autres divinités, pour lui c'était de la prostitution, pas seulement de l'infidélité, mais pire que cela, et il emploie un mot fort, et il dit, et donc ce peuple, combien de fois, parce qu'il était infidèle, il a failli être éradiqué, hein, éradiqué, mais Dieu l'a préservé, hein, c'est déjà depuis Abraham, Isaac, il a une épouse qui est stérile, donc il y a faim, et puis après ça continue, Jacob, il a une épouse qui est stérile, et après, et puis on continue avec Moïse, quand le peuple a été infidèle, ils ont créé un veau d'or, Dieu a dit, mais je vais les détruire. Et Moïse a intercédé pour qu'il ne soit pas détruit. Et en fait, pendant les 40 années qu'il était dans le désert, je relisais dernièrement, et plus d'une fois, est-ce que Dieu a dit, mais moi je vais détruire ce peuple et recommencer. Et puis on continue, et si on lit tout l'Ancien Testament, on voit combien de fois ils se sont éloignés, écartés, ils ont même été emmenés en asile, en Babylone, et ils ont été là-bas pendant 70 ans. Mais il les a ramenés, il y a certaines tribus qui ont été perdues, et tout. Mais il a toujours gardé un reste qui lui a permis d'arriver jusqu'à... Et lui a permis d'accomplir cette promesse qu'il avait faite. Hein, c'est parce qu'on arrive jusqu'à la naissance de Jésus. Hein, c'est dans Actes chapitre 13, verset 23, il dit « C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Hein, » Donc il fallait que Jésus naisse. Donc Dieu a gardé ce peuple, non pas parce qu'il était fidèle, parce qu'il était meilleur que les autres, mais parce que le sauveur devait être issu de ce peuple-là. Et donc Dieu l'a préservé. Et Dieu a gardé sa promesse, la promesse qu'il avait faite à Abraham. Il a dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité », en parlant d'une postérité particulière, qui est Jésus. Et donc, Dieu a pu réaliser son plan. Et donc, nous voyons de manière flagrante la souveraineté de Dieu à l'œuvre, lorsque nous lisons l'Ancien Testament. Et c'est une réalité qui nous rassure pour nos jours. Hein. Par souveraineté de Dieu, je fais référence à cette capacité de Dieu de réaliser ses plans et d'accomplir ses promesses aux hommes, tout en les laissant libres d'agir selon les penchants de leur cœur. Dieu laisse les hommes faire ce qu'ils ont envie de faire, de dire ce qu'ils ont envie de dire, d'accomplir ce qui leur force leur permet, et leur savoir leur permet, mais il accomplit ce qu'il a promis. Hein, son plan se réalise. C'est là où intervient la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas le fait qu'il puisse faire n'importe quoi. Bien sûr qu'il peut faire n'importe quoi, mais il ne fait pas n'importe quoi. Mais il réalise ses promesses. Et on voit cette souveraineté de Dieu, en particulier un exemple frappant, c'est justement la mort de Christ. Hein, Christ est mort comme Dieu l'a voulu, quand Dieu l'a voulu, Et tout s'est passé comme les prophètes avaient annoncé, alors que tous ces gens étaient ennemis, ils voulaient aller contre Dieu, puis il y avait, comme on l'a dit récemment aussi, hein, Satan était contre lui, les pharisiens étaient contre lui, Pilate était contre lui, Hérode était contre lui, le peuple résistait. Mais les choses se sont passées comme Dieu a voulu. Et c'est là où nous voyons cette souveraineté de Dieu qui nous apporte beaucoup de consolation et de réconfort. Et qui nous permet, parce que nous savons que Dieu est capable de garder ses promesses, eh bien ça nous accorde beaucoup de patience, parce qu'on dit, bon, ben ça va venir, hein, il n'y a pas de problème. Et à partir du moment que nous avons cette confiance à quelqu'un, nous pouvons être très patients. Il y a des phrases qui circulent de nos jours, hein, surtout, et qui disent que, qui circulent parmi les croyants, surtout ceux qui ne sont pas encore malades, hein, et qui disent le Covid-19 n'atteindra pas ceux qui mettent leur confiance en Dieu. C'est pas vrai. Mais tant que je ne suis pas malade, je peux me permettre de le dire. Mais c'est pas vrai. D'autres vont vous dire, mais Dieu est souverain. Et oui, ben d'accord. Ou bien ils vont dire, Dieu est grand. Et alors? Ils vont dire ça pour se rassurer. Mais tant que tu es en bonne santé, tu peux le dire. Mais est-ce que tu le crois toujours quand tu es atteint par la maladie? Tout ce que nous savons avec certitude, c'est que Dieu gardera ses promesses nous concernant. Ce qu'il n'a pas promis, il n'y a aucune garantie. Ce qu'il nous a promis, et c'est pour ça que ce qu'il nous a promis, il l'a fait rédiger, écrit, et c'est noir sur blanc pour nous, pour pouvoir le relire, et il nous a promis uniquement ce qui a marqué. Hein, donc, n'essayons pas de nous rassurer avec des mensonges. Hein. Un mensonge n'a aucun pouvoir. Il n'y a que la vérité qui a du pouvoir, surtout quand c'est la parole de Dieu. Et cette manière de lire et de voir la souveraineté de Dieu qui agit, qui accomplit, et nous avons le témoignage de l'Ancien Testament, et puis nous avons le témoignage de l'histoire de l'Église, et bien cette lecture de l'Ancien Testament nous permet à nous aujourd'hui de rester sereins devant le foisonnement des idées et la confusion des propos de notre époque. Hein. Et ce que vous avez entendu hier n'est plus vrai, on a déjà changé d'avis à tous les niveaux. Hein. Donc on ne sait plus où aller. Et les gens se posent des questions, mais c'est la confusion totale. Mais pour ce qui est de ce que Dieu a annoncé, nous pouvons être sereins. Hein, ce à quoi il s'est engagé, eh bien, il l'a fait parce qu'il est en mesure de le réaliser. Lui a confiance en lui, et donc nous pouvons avoir confiance en lui. Il est en mesure d'accomplir ce qu'il a promis. C'est pour ça dans Ésaïe, chapitre 55, verset 11, et Ésaïe ne vivait pas une époque où tout se passait bien. En fait, le peuple était contre Dieu et tout cela. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Ainsi en est-il de ma parole ». Il vient de faire référence à la pluie qui tombe du ciel, qui fait germer le blé et qui fait monter l'épi et qui produit le pain pour le semeur. Eh bien, il dit « Ainsi en est-il de ma parole ». Qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole de Dieu, eh bien, quand elle sort de sa bouche, elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce qu'elle a à faire. Et nous pouvons compter dessus. Et la Bible, l'Ancien Testament, quand vous lisez l'Ancien Testament, ne lisez pas le comportement des enfants d'Israël et tout ce qu'ils ont fait, leur infidélité. Regardez comment Dieu a agi par rapport à eux. Hein, leur vie et leur infidélité et tout ça, ça ressemble beaucoup aux hommes d'aujourd'hui. Mais regardez comment Dieu s'est comporté, comment Dieu a gardé ses promesses, comment Dieu a été fidèle et comment Dieu réalise tout ce qu'il promet. Et ça nous rassure pour nous aujourd'hui. Hein, donc, ces textes de l'Ancien Testament sont importants, très importants pour nous. si notre Dieu m'a fait des promesses qu'il les tiendra, hein, parce qu'il les a fait, donc il les tiendra, je peux exercer de la patience avec les frères, lesquels, les uns s'imposent des contraintes avec lesquelles peut-être je ne suis pas d'accord, les autres s'accordent des libertés avec lesquelles je ne serai pas d'accord, mais cela ne m'empêche pas de persévérer dans la voie divine. Hein, Jésus a dit « Je suis le chemin ». Et on suit le chemin, on ne suit pas les passants dans le chemin, on suit le chemin. Hein, et donc, nous pouvons, quelles que soient les variétés, quel que soit ce que les uns pensent ou les autres pensent, eh bien, nous pouvons continuer. Et nous savons que ce que Dieu a promis aux frères faibles, ou ce qu'il a promis aux frères forts, il l'accomplira. Tel est le message que nous tirons de l'Ancien Testament. Il y avait des gens qui étaient faibles dans la foi, il y en avait d'autres qui étaient des géants dans la foi, et Dieu a gardé ses promesses avec l'un et avec l'autre. Les enfants d'Israël ont eu des hauts très hauts, et ils ont eu des bas très bas, mais vous savez, Jésus est né, comme ça a été promis, comme les prophètes l'ont annoncé. Tout s'est passé. C'est le fait que les hommes soient fidèles ou moins fidèles, ça ne change rien. Dieu accomplit sa promesse. C'est ça la beauté du Dieu de la Bible. Et Dieu s'est engagé vis-à-vis du juif, comme du païen. Hein, Dieu n'a pas fait de distinction, il a fait des promesses à chacun. Dieu a donné des garanties à Israël, et il a fait des promesses aux païens. Hein, donc, c'est comme ça que dans la Bible, il y a le juif et puis il y a les païens. Donc, en disant juif et païen, nous englobons tous les humains, hein, toute l'humanité. Et Dieu s'est engagé vis-à-vis du juif comme du païen. Dieu a donné des garanties à Israël et il a fait des promesses aux païens et il les honorera parce qu'il garde sa parole. Hein? Dieu est lié par sa parole. Et à partir du moment qu'il l'a dit, eh bien je peux compter dessus. C'est plus sûr que le lever du soleil, hein, le matin. Et si cela est certain, est vrai, si c'est vrai que Dieu garde sa parole, alors nous avons ce verset de Romains 15, versets 5 à 6, il dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, je donne une image, hein. Peu importe d'où viennent les affluents, ce qui importe est que les eaux du fleuve coulent dans le même sens vers la mer. Et puis là, tout est naturel. Alors, peu importe ce peuple de Dieu, peu importe d'où ils viennent, de quel arrière-plan, de quelle langue ils parlent, quelle culture ils ont, dans quelle religion ils sont nés ou pas nés, peu importe. Le fait, c'est qu'ils se rassemblent et forment ce fleuve qui va vers Dieu. Et ce que nous recherchons, et que Dieu soit glorifié dans nos vies et par le témoignage de nos bouches, notre bouche. Donc il dit, voilà, l'un pense ceci, l'autre pense cela, l'autre il préfère ceci, l'autre il préfère cela, peu importe. parce qu'il est, un peu marqué par son arrière-plan, par ce qu'il a vécu, par ce que les bonnes, les mauvaises expériences qu'on a pu avoir, la famille dans laquelle on est né, tout ça influe sur notre manière de penser. Et il dit, peu importe s'il y a des variances, ce qui importe, c'est que vous approchiez de Dieu et que marchiez ensemble et que Dieu soit glorifié. Et d'où nous avons, et vous avez vu dans cette parole, eh bien, deux exhortations où il y a une action de réciprocité. Hein, la réciprocité, c'est une chose qui n'existe pas trop dans notre monde. Hein, c'est toujours, tout le monde, c'est pour moi, on est très égocentrique, on veut tout pour nous, mais ce que la Bible nous enseigne, c'est cette réciprocité qui existe entre les croyants. Remarquez qu'il dit au verset 5, il dit d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Donc ce n'est pas à toi d'avoir les mêmes sentiments que moi, c'est à tous les deux d'avoir les mêmes sentiments que Jésus-Christ. Et lorsque chacun de nous cherchons à avoir les sentiments que Jésus-Christ avait par rapport à nous, eh bien nous pourrons nous accepter. Et il ajoute aussi, au verset 7, il dit « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Donc, accueillez-vous les uns les autres, comme Christ vous a accueillis. Comment est-ce que vous avez été reçus? Il vous a reçus à bras ouverts, hein, comme dans la parabole du fils prodigue, le fils qui a été une honte, qui a été a déshonoré son père, a déshonoré la famille, qui a dépensé le bien de la famille, eh bien, quand il revient, repentant, eh bien, le père l'embrasse, même s'il sent un peu le porc. Hein, donc, il le prend dans ses bras. Et vous savez, c'est ce que Dieu fait en la personne de Jésus-Christ, il prend le pécheur, on est sale comme il nous prend, et c'est lui qui, comme dans l'histoire du fils prodigue, c'est le père qui donne le vêtement neuf. C'est le Père qui donne les chaussures neuves, c'est le Père qui donne l'anneau au doigt, et bien pareillement, Dieu, et bien, nous reçoit, et c'est lui qui nous donne la justification, la justice que nous pouvons porter, il nous donne ce nouveau statut, et il nous donne cette possibilité d'entrer dans sa maison. Hein, donc, il dit, donc, recevez-vous, accueillez-vous, comme Dieu vous a accueilli. Hein. Ce n'est pas en fonction de ce qu'est la personne ou ce qu'elle représente pour vous ou les expériences passées que vous avez eues avec cette personne. Recevez-la comme Christ vous a reçu. Donc avec grâce, patience, persévérance, Dieu nous reçoit tel que nous sommes et puis ensuite il fait une œuvre en nous et nous transforme. Et c'est comme ça que nous avons besoin d'être patients les uns avec les autres aussi. Remarquez aussi, il y a un ordre dans ces deux exhortations. D'abord, il dit d'abord mets les sentiments dans l'ordre. D'abord que tu aies les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et ensuite, l'accueil, eh bien, tu le feras à l'imitation de celui. Et tout cela pour la gloire de Dieu. Tu imiteras Jésus-Christ dans l'accueil. Mais d'abord, règle les choses dans ton cœur, hein, les sentiments. Mets de l'ordre et aime comme Dieu aime. Vois la personne comme Dieu la voit. Nous voyons toujours les défauts, nous voyons toujours le passé, mais Dieu voit son image. Il dit... Il porte mon image, il porte l'empreinte de ma création et je le reçois. Et c'est la valeur que nous avons, c'est le fait que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et donc, dans le contexte de tout cela et tout ce qui vient dit, comment pouvons-nous distinguer entre le juif et le grec? Eh bien, au verset 8, il dit... Oui, Dieu s'est servi de l'un et de l'autre. Au verset 8, il dit « Je dis, en effet, que Christ a été serviteur des circoncis, donc parlant du juif, pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, donc l'Ancien Testament, tandis que les païens, Nouveau Testament, glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Donc voilà, chacun a sa place, chacun a ce rôle important, et Dieu donne à chacun ce rôle important. Donc l'un met en valeur le fait que Dieu garde ses promesses, l'autre met en valeur la miséricorde de Dieu, et bien là nous avons une image complète de Dieu et son comportement vis-à-vis de nous. Tout cela, bien, ça nous donne justement de la patience, de la consolation, et vous avez remarqué, je ne vais pas le développer, mais vous remarquez qu'il parle, c'est le Dieu de la consolation, le Dieu de la persévérance et le Dieu de la consolation. C'est pas seulement qu'il en a de temps en temps, mais c'est qu'il, ça le caractérise. Hein? Donc, soyez réconfortés par cela. Donc, et pour arriver à ce que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, hein, c'est le verset 13, pour arriver à ce fait que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Voilà, là, il attache le nœud et puis le colis est complet. Hein, tout est là. Et ça, il nous dit, voilà. J'ai commencé, je vous ai parlé de l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu. Eh bien, il dit, voilà, maintenant j'ai terminé, j'attache le nœud, voilà ce que c'est que la bonne nouvelle de Dieu, et ce qu'elle vous offre et ce qu'elle vous propose. Alors, est-ce que vous êtes prêts à le prendre? C'est à la disposition de chacun, et vous y avez tous droit, hein, et vous n'avez pas besoin de vous poser des questions, ni de savoir ce que les autres pensent, et peu importe leurs idées, Dieu dit, c'est pour tous, hein, Dieu a tant aimé le monde. Hein, et Christ est mort pour tous les hommes. Je veux terminer en lisant le psaume 130. Le psaume 130, c'était un psaume que chantaient les enfants d'Israël quand ils arrivaient au temple. Et donc, ils montaient les derniers escaliers pour entrer dans le temple. Et donc, ils chantaient ce psaume 130. Donc, pour eux, c'était dans leur contexte qu'ils le chantaient. Mais nous pouvons le lire et le prendre pour nous dans le contexte du nouveau peuple de Dieu, du nouveau troupeau, hein, composé des brebis de l'ancien temps, plus des autres brebis, et qui forment un seul troupeau et un seul berger. Et ce n'est plus une question de bergerie, c'est une question de troupeau qui marche derrière. Et donc je vais lire ce psaume 130 et puis vous pourrez le prendre pour vous-même si vous avez reçu Jésus-Christ dans votre cœur. Sinon, eh bien, vous allez voir des choses qui pourraient vous intéresser et vous pouvez venir et dire, mais écoutez, je crois que Jésus-Christ, eh bien qu'il est réellement mort sur la croix et qu'il a porté mes péchés et je veux le recevoir pour moi. Hein, je lis le psaume 130. Il dit, du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin, Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel. Et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Prenez ça personnellement, c'est ça qu'il veut pour vous, et que vous puissiez le lire et remplacer, quand il dit Israël, eh bien, que vous puissiez mettre votre nom pas seulement une aspiration, mais si vous êtes passé par la croix et vous avez déchargé votre péché, dit Dieu, je te donne mon péché et je crois que Christ est mort pour moi. Maintenant, il dit, parce qu'il dit, si Dieu ne pardonnait pas nos péchés, eh bien, on est, excuse-moi l'expression, mais on est cuit. Hein. Mais là, parce que nos péchés sont pardonnés, parce que nous pouvons faire notre espoir est basé sur ses promesses, eh bien alors, nous pouvons aller de l'avant. Et nous sommes sur ces degrés qui rentrent dans le temple qui représentait la présence de Dieu. Maintenant, ce n'est pas un temple terrestre, mais ce sera la présence céleste avec Dieu. Et donc, nous pouvons avoir ça comme champ en attendant la fin de notre vie et l'entrée dans le lieu éternel. Ça, c'est la beauté de l'Évangile. C'est pour ça que ça s'appelle une bonne nouvelle de Dieu. Que le Seigneur nous aide et qu'il vous soutienne et vous encourage. Et vous pouvez réécouter ceci pour s'il y a des choses qui vont échapper. Et nous te remercions. Nous voulons terminer par la prière. Et ensuite, on chantera une ou deux strophes d'un chant. Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants à toi pour ta parole. Nous sommes reconnaissants pour l'Ancien Testament qui nous... trop souvent, on lit, mais on ne voit qu'Israël et on voit ce peuple infidèle. Mais ce que nous voulons, c'est lire l'Ancien Testament et voir le Dieu fidèle qui garde ses promesses. Et c'est ça qui nous donne de l'espérance, c'est ça qui nous donne de l'assurance, de la sérénité dans notre monde. Et Seigneur, et c'est ça qui est la base du fait que nous pouvons nous accepter les uns les autres et nous recevoir les uns les autres, nous accueillir les uns les autres, parce que tu nous as accueillis. Ô Père, quelle belle chose tu as entrepris et tu l'as rendu possible en offrant ton Fils sur cette croix sanglante, infâme, mais ô, accomplissant une œuvre si glorieuse. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Je vous propose...